Sud Radio, il est 3h. Sud Radio. Parlons vrai.
Pourquoi ce soir on n'irait pas danser très tard, même si c'est pas ton genre, je sais, même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais
qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Les années filent, le même refrain, jamais le temps, le temps de rien. Dans l'océan, gardez le lien. Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours?
Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Vous qui vous nous prenez, on nous juge, on nous calcule, mais on n'est pas des pions à manipuler.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Nous sommes en guerre.
Eh oui, manipulation, enfumage, prévarication. À quelle sauce serons-nous mangés? Et actuellement, on parle beaucoup, évidemment, de l'épargne des Français, qu'il faut évidemment optimiser, mais dans quel sens? Dans quel sens? Que nous disent, effectivement, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron? La taxation des rentes, qu'est-ce que ça veut dire? On en parle avec Tom Benoît, qui est essayiste, entrepreneur et fondateur de la revue Géostratégie. Eh bien, on va parler de cela parce que, effectivement, à quelle sauce nous risquons d'être mangés? Et puis, cet entretien très intéressant entre un journaliste de LCI et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, la RDC, Congo-Kinshasa, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement entre l'Afrique et les Européens? Qu'est-ce qui se passe entre l'Afrique et l'Europe alors qu'ils étaient si proches? Nous nous sommes tant aimés. Aujourd'hui, est-ce que c'est « Je t'aime, moi non plus » On en parle avec la géopolitologue Caroline Galacteros, la présidente de Géopragma. Voilà, on est là pour élucider, on est là pour éclairer, on est là auditeurs du Sud Radio, pour vous donner la mécanique. C'est ça qu'on éclaire, la mécanique. Le reste, ce sont des affaires de people et c'est beaucoup moins intéressant. Et puis, voilà, après la Joconde, après effectivement un certain nombre d'attaques dans les musées, eh bien on s'attaque à Courbet, à l'origine du monde, voilà. Ce sont des écologistes qui estiment qu'en défendant la planète, et pour défendre la planète, il faut vandaliser les œuvres d'art. C'est une stratégie d'une intelligence extrême et qu'on essaiera de d'élucider. Et puis, Pivot, Bernard Pivot, le roi Lear, on en parle depuis hier, hein. La mort de Bernard Pivot, effectivement, qui était un très très grand passeur, un très grand transmetteur, au vrai sens du terme. Et je vais vous raconter, effectivement, ma rencontre avec lui. Avec lui, j'ai fait deux émissions, dont j'étais la vedette, mais j'étais la vedette sous pseudonyme. Et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Et puis nous allons recevoir Christophe Herge Duval, un conseiller d'État qui a écrit « L'inflation normative ». Et oui, Pompidou disait il y a déjà plus de 50 ans « Arrêtez d'emmerder les Français ». Eh ben non seulement on n'a pas arrêté, mais on a remis 100 fois sur le métier l'ouvrage de l'emmerdement et des normes. On en parle tout de suite.
Sud Radio Le Puy-en-Velay.
91.
Sud Radio.
Tout ta totalité. De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité.
De mes virages, mes ratures. Quand j'envisage en démesure de mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tous mes torts je te donne la totalité. Tous mes défauts j'en ai pas en réalité.
Tous mes mensonges, mes humeurs, tous mes envols, être ailleurs.
Je suis sûr de mes doutes, la complexité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien oui, je suis prêt, moi, à payer mes impôts, effectivement. Non pas comme disait Audiard, nous n'avons plus que l'impôt sur les eaux. Mais apparemment, c'est ce qui se passe avec les prélèvements obligatoires. Alors, allons-nous vraiment vers un assèchement? On va saigner qui bientôt? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Mon vieux. C'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas.
Oui, d'accord, Charles Trenet, sans ça, ça n'ira pas. Moi, je veux bien payer, mais c'est la dette de qui ? Je dois payer aujourd'hui, moi, imposable, moi, contribuable, la dette de qui ? Et qui va-t-on taxer ? Alors, on va en parler parce que est apparu, effectivement, avec le quoi qu'il en soit, avec on n'a jamais été aussi bien, on n'a jamais eu une telle réussite, Dixit Bruto Le Maire, la taxation des rentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, Tom Benoît ? Vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur, et vous avez fondé la revue Géostratégie, Géostratégie Magazine. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où on entend beaucoup de bruit ? Allez, les chercheurs d'or qui s'agitent ?
Alors, bonjour André Berkoff. Très clairement, ce qu'il faut préciser, c'est que Bruno Le Maire a fait une apparition en mode selfie, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à Gand, en Belgique, au mois de février, en disant « Je suis très énervé parce que l'union des marchés de capitaux n'avance pas assez vite. » Il y a 35 000 milliards, disait Bruno Le Maire à ce moment-là, d'épargne qui dort sur des comptes bancaires européens. Mmh. Et cette épargne doit être mobilisée pour la transition écologique, pour la transition numérique et peut-être pour d'autres causes. Alors la première des choses à préciser, c'est que je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait 35 000 milliards d'épargne qui dorment sur des comptes européens. Mmh. Pourquoi ? Tout le monde me comprenne, oui, très clairement. Lorsqu'on parle d'épargne qui dort, c'est de l'épargne qui se trouve sur des comptes courants, donc pas sur des livrets.
D'accord.
L'épargne qui est sur un livret A, ça n'est pas de l'épargne qui dort dans le jargon de Bruno Le Maire. L'épargne qui dort, c'est de la liquidité qui est disponible sur des comptes à vue, sur des comptes courants.
Mon compte courant que j'étends à la banque, c'est ça.
Exactement.
Ça,
c'est de l'épargne privée, c'est de l'économie, ou ce qu'on appelle pour des sociétés du cash flow positif.
D'accord.
Au mois de janvier dernier, Bruno Le Maire a commandé un rapport à l'ex-gouverneur de la Banque de France, européiste convaincu, Christian Noyer, qui s'est fait assister par une dizaine de colistiers, si je puis dire, et de rapporteurs, et qui vient de rendre son rapport sur l'union des marchés de capitaux,
oui,
qui est un concept dont vous allez beaucoup entendre parler durant les semaines et les mois à venir, parce que l'union des marchés de capitaux n'est en rien une union des marchés ou des capitaux, mais est, je le dis très clairement et d'une façon tout à fait limpide, un grand plan qui permettra de ponctionner l'épargne privée par le biais de la création notamment d'un produit d'épargne européen. Alors l'union des marchés de capitaux.
Allons-y, oui. Vous me disiez, Tom Benoît, que ce chiffre des 35 000 milliards, vous n'y croyez pas ?
Mais pas une seconde, avec toutes les mesures prudentielles qui vont être accrues, qui plus est par la Banque Centrale Européenne, je ne crois pas une seule seconde que les banques logent des liquidités qui ne soient pas exploitées. Ces liquidités sont déjà titrisées et surtitrisées. C'est pour ça d'ailleurs que Christian Noyer dit très clairement qu'il faut accroître le marché de la titrisation. Là aussi, pour être parfaitement didactique, ce qu'on appelle la titrisation, c'est la création de titres financiers qui ne sont pas liquides, par rapport à des collatéraux. Ça veut dire que vous avez des organismes bancaires, par exemple, qui font des paquets financiers avec de l'épargne, qui au départ est liquide, et qui cette épargne va faire des petits, en quelque sorte, parce qu'elle aura été titrisée. Par contre, très simplement, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Vous prenez un groupe comme BNP Paribas, par exemple, aujourd'hui, vous avez 33 000 milliards, donc 10 fois le PIB de la France, d'engagement sur des produits dérivés, donc sur des actifs titrisés. Et ces actifs ne sont pas liquides. Ça signifie bien qu'en cas de crise, vous avez ce qu'on appelle une crise sur les produits dérivés, puisque vous avez des actifs qu'on considérait comme étant de la richesse, mais qui ne sont pas de la richesse liquide.
D'accord.
Donc ce que veut faire Christian Noyer, c'est accroître le marché de la titrisation. Et Christian Noyer nous dit dans son rapport qui a été rendu la semaine passée, qui est, je le dis très clairement, un torchon parce qu'il est bourré de fautes d'orthographe, de surcroît.
Bon, ça, c'est autre chose. Je comprends.
Il y a des fautes d'orthographe, d'accord, mais ça, c'est
encore
un autre problème.
Mais sur le fond, sur le fond.
Et sur le fond, il nous dit très clairement qu'il va falloir mobiliser l'épargne des Européens en créant un produit d'épargne européen dont les contours ne sont pas encore clairement définis, mais qui pourrait servir à financer la retraite par capitalisation. Alors, le produit d'épargne européen, pour être tout à fait clair, c'est un livret, comme nous pourrions dire un PEA, par exemple, ou un livret qui va être créé à l'échelle européenne et auquel il va falloir contraindre la population, une partie de la population, à souscrire. Parce que j'imagine que vous, moi, personne n'aura envie de mobiliser son épargne et de la bloquer. Christian Noyer dit très précisément qu'il n'y a pas suffisamment de livrets gérés par les puissances publiques qui aient des termes longs. Ça veut dire avec une épargne qui est bloquée sur le long terme.
C'est ça.
Et qu'il faudrait étudier
ce que
produit.
Vous appelez le long terme, Tom Benoît, non, pour être très précis, pour comprendre, c'est sur combien d'années, normalement, ce qu'on appelle le long terme
bloqué. C'est à partir de plusieurs années, 5 ans, 6 ans,
d'accord,
voire plus.
D'accord.
Et Christian Noyer parle de 9 années, précisément.
Et donc l'idée, c'est de contraindre, ou en tout cas d'essayer d'obliger ou d'encourager très fortement tous les épargnants, quels qu'ils soient, et ils sont des dizaines, voire des centaines de millions en Europe, à effectivement aller vers ces livrets, vers la création de ces livrets. C'est ça, l'idée.
Alors, c'est absolument ça. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'en lisant ce rapport, il y a 80 pages environ, vous arrivez, je crois que c'est à la page 45, sur le produit d'épargne européen, un mot qui est très précis. Et Christian Noyer nous dit, il va falloir créer un produit d'épargne, donc bloqué à long terme, sur lequel la population déposera son épargne, sa liquidité. Cette épargne sera bloquée pendant plusieurs années et nous pourrons la titriser, c'est-à-dire en user de notre côté, sans que les personnes qui l'ont déposée puissent la voir à leur vue. Parce que si l'épargnant dépose de la liquidité qui est titrisée et que cette épargne n'est pas bloquée, vous imaginez bien que lorsque vous, André Berkoff, vous allez à votre banque, vous demandez un ordre de virement et que vous faites sortir votre épargne, vous avez, vous provoquez un risque de faillite. Parce que si vous et d'autres épargnants le font au même moment, l'épargne qui sert de collatéral est toujours liquide. Donc il faut bloquer cette épargne sur un long terme. Et Christian Noyer nous dit, c'est intéressant, ce qu'il va falloir créer, c'est pour ceux qui voudraient, pour satisfaire des besoins élémentaires, sortir l'épargne avant le terme, un impôt sur les rentes.
Et alors la taxation sur les rentes.
Voilà,
ça veut dire, attendez, j'essaie, c'est très intéressant sur la mécanique. Ça veut dire, supposer qu'on me dise, voilà, il y a un crédit européen, enfin un livret européen, vous avez, mettons, allez, 10 000 euros en banque, et eh bien vous allez mettre une bonne partie de ces 10 000 euros en banque sur un livret. Mais ça veut dire que si moi, demain, vous, ou n'importe quel auditeur de Sud Radio a envie de retirer de l'argent pour telle ou telle raison, après tout, c'est votre argent, c'est mon argent.
Absolument.
Si on ne peut pas le faire, on ne pourrait plus le faire.
Vous ne pouvez pas le faire, ou alors vous êtes taxé comme vous l'auriez été par rapport à un livret, ce qu'on appelle un compte à terme, lorsque vous placez de l'épargne sur un compte à terme librement et que vous sortez votre argent avant le terme qui avait été essentiellement prévu. Vous perdez vos intérêts.
D'accord.
Sauf que là, au lieu de perdre vos intérêts, vous avez une imposition supplémentaire qu'on appelle une imposition sur les rentes. J'insiste bien sur le mot rente qui, jusqu'à il y a encore quelques mois, ne voulait pas dire grand-chose dans le jargon des finances publiques. C'est Gabriel Attal qui a lancé une mission qui est dirigée par Nadia Hay, ancienne ministre de la Ville, et d'autres élus macronistes qui sont chargés de rendre un rapport à la fin du mois de juin sur cette potentielle taxation sur les rentes.
Oui.
Et on a eu l'impression que Gabriel Attal a lancé ce mot par hasard, en quelque sorte, en disant « il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il y aura peut-être des taxations sur les rentes, sous-entendu ». On va taxer l'argent de ceux qui en ont tellement, qui ne savent pas quoi en faire et qui sont des rentiers et qui ponctionnent la richesse collective. Mais non, le mot rente est très précis et il prend tout son sens dans le rapport Noyer. Vous avez un produit d'épargne européen dont les contours ne sont pas définis, ils le seront au mois de juin, auquel il va falloir souscrire, ils le disent, pour financer la retraite par capitalisation, c'est-à-dire que vous allez avoir des travailleurs, par exemple, auxquels on va imposer sur leur fiche de paye de faire fuiter une partie de leurs revenus, de leur salaire ou des entrepreneurs vers ce produit d'épargne européen, vers le produit d'épargne, qui sera titrisé à long terme, et vous aurez une taxation sur les rentes si vous sortez votre argent, votre épargne de ce produit d'épargne européen.
Donc c'est taxation, plus taxation, plus taxation et encore taxation. Une question, Tom Benoît. Est-ce qu'on peut contraindre, effectivement, oui, on va chercher à contraindre, mais si moi je ne veux pas participer à ce plan d'union européen, est-ce qu'on peut m'obliger à le faire?
Mais André Berkoff, vous êtes qui? Vous êtes français ou vous êtes européen? Si vous êtes français, vous n'avez pas de pouvoir, puisque tous les pouvoirs ont été délégués à l'Europe fédérale. Et pour faire passer l'Union des marchés de capitaux, qui a été rebaptisée sournoisement d'ailleurs dans l'intervalle en Union de l'épargne et de l'investissement, parce que j'y reviendrai ensuite, elle n'a rien à voir avec une union des marchés de capitaux. Elle est effectivement une union de la ponction de l'épargne pour des investissements décidés par certaines puissances publiques. Il a fallu et il va falloir accroître un saut vers l'Europe fédérale, c'est-à-dire vers la dépossession, et Christian Noyer le dit très précisément, des organes de contrôle financier, des autorités financières à échelle nationale. Il va falloir créer des autorités financières plus qu'il n'y en a à échelle européenne. Et cette financiarisation de l'épargne des Européens va se faire à l'échelle européenne, avec les bras armés que sont la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne dans un premier temps.
Eh bien écoutez, à l'aune des élections, on ne va pas parler politique ici, mais à l'aune des élections, c'est très intéressant d'avoir ces informations, effectivement, à quelle sauce on sera mangé, à quelle sauce le mouton, à quelle aune la laine du mouton sera-t-elle tondue. Tom Bonan, on en reparle d'ici mai et juin, effectivement. Merci.
Avec grand plaisir. Merci André Bercoff.
C'était le fait du jour avec Tom Benoît. Restez bien avec nous. Tout de suite, on reçoit Caroline Galacteros. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio à Lannion en DAB+.
Sud Radio.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. At the tone, 'cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great."
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh.
Tous ces états, la rediffusion.
Les grands barres de béton redeviendront sable, le ciel s'ouvrira sur un idéal. Les satellites, des anges de métal, lanceront des mots d'amour, on trouvera ça normal. Des armes de fer, on fera des fleurs, on mettra du cœur. Chapitre 1, l'humanité. Chapitre 2, l'humanité.
les humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine.
Au premier jour, une lueur dans nos yeux. On croquera la pomme si nous les nouveaux dieux.
Imagine tout ce qu'on pourrait faire
en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre.
Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Entre l'Afrique et l'Europe, c'est quoi? C'est la séparation? C'est le divorce avec communauté aux Aquais? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On sent bien, et on le voit depuis déjà des années, etc., l'arrivée de la Russie et de la Chine, de la Turquie, sans parler du reste. On voit un peu ce qui se passe avec les troupes françaises, avec les renvois d'ambassadeurs. Mais pourquoi? Pourquoi ce malaise? Et pourquoi ce malaise qui ne fait que commencer apparemment? On en parle tout de suite avec Caroline Galacteros.
Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Qui vous nous prenez? On nous juge, on nous calcule, mais on n'est pas des pions à manipuler. La France a l'âme révoltée, on refuse d'être diminué.
Pour qui vous nous prenez? Effectivement, pour qui vous nous prenez? Il y a eu samedi dernier, effectivement, un entretien entre le président de la République démocratique du Congo, le Congo Kinshasa, Félix Tshisekedi, et Darius Rochebain de LCI. Et entre autres, voici ce qui se disait par rapport à ce qui se passe entre l'Europe, l'Afrique, en tout cas le Congo, la Russie et la Chine. Écoutez.
Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique?
Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait.
Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, Occidentaux, actuellement, selon vous?
Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures.
Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça?
On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme.
Alors voilà, c'est vraiment le paradoxe. Caroline Galacteros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, et puis vous dirigez le think tank Géopragma, que l'on connaît bien, et on vous accueille toujours avec plaisir, le pôle français de géopolitique réaliste, et vous êtes l'auteur du blog Bouger les lignes, que vous animez. Mais quand je dis paradoxe, c'est intéressant, on dit oui, ce que dit Félix Tshisekedi, il dit oui, l'Europe c'est le meilleur partenaire, mais enfin, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, notamment les droits de l'homme, vient-il dire. Est-ce que c'est pas le grand paradoxe? C'est-à-dire que la Russie et la Chine, pour résumer, hein, mais vous allez évidemment développer ça, disent, écoutez, nous, on va faire du commerce, on fait du business, on fait des choses, puis le reste, c'est votre régime, vous en occupez. Et les Européens qui disent, oui, mais enfin, quand même, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas jeter les droits de l'homme avec l'eau du bain du business, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un vrai paradoxe, là?
Ben, c'est un paradoxe, mais en même temps, c'est extrêmement logique ce que dit le président Tshisekedi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'ait toujours pas compris qu'il faille quitter notre discours de surplomb moral, arrêter de faire des leçons, surtout que nous sommes très très loin quand même d'être parfaits, y compris dans ces matières de droits de l'homme ou de morale, des engagements, des interventions, etc. C'est-à-dire, on agit. Plus, on n'a pas de titre pour faire cela. Mmh. En fait, ce qui nous permettait d'avoir toujours ce surplomb et cette position de donneur de leçons, c'était un rapport de force global qui était en faveur de l'Occident, de l'Amérique et bien sûr des vassaux européens qui tiraient les fruits de leurs anciennes positions d'empire d'abord.
Oui, colonies, etc.
De globalement l'occidentalisme triomphant. C'est fini. Voilà, donc il faut s'en rendre compte. Et en fait, la Russie et la Chine tirent les marrons du feu, c'est vrai, c'est incontestable. Chacune à leur manière, chacune avec leurs limites. Mais elles tirent essentiellement les marrons du feu du fait qu'elles reconnaissent une forme d'égalité a priori, et elles misent là-dessus, et elles en parlent, et elles le disent, et elles redonnent cette égalité entre tous les États, alors que nous avons fini par pratiquer, une forme pas d'exceptionnalisme revendiqué, mais enfin, on considère qu'on peut se permettre de donner des leçons.
Ouais.
Voilà, c'est fini tout ça. C'est terminé. Et plus vite on s'en rendra compte, plus vite nous pourrons ramasser les quelques lambeaux de notre influence africaine. Et peut-être essayer de construire quelque chose.
Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas trop tard, Caroline Galacteros? Est-ce que ce ne sont pas des miettes qu'on va nous jeter au bord du festin? C'est-à-dire, vous avez raison de souligner que, de toute façon, avec même la France-Afrique et autres, eh bien les affaires étaient déjà les affaires, c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'est passé avec une telle vitesse? On a l'impression que tout ça s'est passé en quelques années, même si c'était préparé depuis longtemps. C'est un peu l'aveuglement ou le je ne dis pas la vanité, c'est quoi de l'eau gouvernance,
oui,
je parle en général.
C'est tout ça. Mais c'est tout ça, c'est l'aveuglement, c'est une immense arrogance, c'est une vanité indécrottable, c'est une incapacité, c'est un déni, mais on le vit partout sur la planète, pas que vis-à-vis de l'Afrique. Mmh. On nie la réalité, on est dans une pensée magique, et une pensée magique qui nous coûte extrêmement cher. Les autres pensent stratégiquement, y compris les Africains désormais. Ouais. Ils ont compris qu'ils avaient besoin effectivement qu'on les considère autrement, qu'ils avaient une immense richesse que nous avons abondamment utilisée à notre avantage et sans doute dans des... Parce que si vous écoutez les discours de tous ces chefs d'État africains, c'est pas des perroquets, hein. Ils ne répètent pas ce que Vladimir Poutine ou Xi Jinping leur demandent de répéter. Ils le pensent. Et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils disent, ce qu'ils répètent, c'est « nous voulons des accords gagnant-gagnant, nous n'avons rien à faire de vos prétentions à nous dire ce qu'on doit faire, nos élections, nos ci, nos ça, nos régimes, nos droits de l'homme, c'est pas votre affaire. Ouais. En revanche, nous pouvons faire des affaires ensemble, et nous pouvons avoir des relations, même d'alliance, de rapprochement, mais sur une base de considération, de souveraineté, de respect de notre souveraineté.
C'est un peu ce que disait Général de Gaulle, un État n'a pas des amis, il n'a que des intérêts.
Mais absolument. Alors, on a des intérêts plus ou moins forts, on peut avoir des affinités avec des types de régimes, mais je crois que, et si vous voulez, on en prend conscience maintenant, comme d'habitude, c'est-à-dire
un
au moment
tard,
où il est, voilà, Ouais. Parce que, mais c'est comme en Russie, c'est comme avec la Russie, c'est comme en Ukraine, c'est comme partout. Ouais, ouais. On ne veut pas reconnaître le processus quand il nous désavantage. Et au lieu de penser stratégiquement, de penser à long terme, on reste dans des fuites en avant et dans des poursuites de comportements, d'attitudes et finalement d'ethnocentrisme complet. Parce que c'est plus facile et puis parce qu'on se dit que finalement, à la fin, l'équilibre va revenir entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui nous sera favorable. Oui. C'est à mon avis une erreur extrêmement lourde. Oui. Et effectivement, l'Afrique est en train d'échapper à l'Occident d'une manière générale, pas qu'à la France. Hein.
Oui, et puis on voit ce qui se passe avec les BRICS, enfin, que vous savez ça mieux que personne. Mais est-ce que, au fond, on ne va pas revenir à quelque chose que, évidemment, qui heurte la morale et qui heurte un certain nombre d'éthiques et de positions éthiques en disant, voilà, effectivement, ce sont les intérêts, ce sont, hélas, les rapports de force, il faut bien le dire, et que ces rapports de force, eh bien, à nous d'être, je dirais, armés dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est ça ?
Oui, mais alors, si vous voulez, pour moi, la morale, c'est pas l'éthique. Précisément, ce qu'on essaie de faire depuis des décennies et depuis la fin de la guerre froide notamment, c'est de faire semblant d'avoir des attitudes, des exigences et une cohérence morale. Oui. Et donc, on développe tout un discours sur les droits de l'homme, sur l'état de droit, etc., etc., mais qui, en fait, couvre des pratiques totalement prosaïques, totalement décorrélées de toute éthique.
C'est vrai, sauf que...
C'est précisément ce qui est en train de rassembler tous ces états contre nous.
Oui, mais est-ce que juste un mot, Caroline Galactéros, vous savez très bien que parmi tous ces gens-là, il y a quand même quelques dirigeants, je ne sais pas, qui ne sont pas forcément vêtus de probité candide et le lin blanc. La corruption existe très fortement, là-bas aussi.
Mais chez nous aussi, la corruption existe.
C'est ça, oui.
C'est ça le problème, c'est qu'il faut arrêter, quoi. Il faut poser les ailes. Il faut décrocher les ailes qu'on s'est mises dans le dos tout seul. Ouais. Il faut les poser. Elles sont très jolies, c'est magnifique, une belle plume blanche. Mais ça n'existe pas. Nous ne sommes pas plus des anges que les autres. Et maintenant, désormais, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, et il y a des contrepoids. C'est ça la grande différence aussi. C'est qu'avant, bien sûr, tous ces pays avaient bien conscience de notre cynisme. Ils ne se payent pas de mots. Il n'y a qu'en Europe où on y croit un petit peu. Mais simplement, ils n'avaient pas d'alternative. Aujourd'hui, ils en ont.
Ouais,
leur proposent un autre type de relation. Et donc, forcément, c'est quelque chose d'assez attirant.
Tout à fait. Karine Galactéros, voilà, vous rejoignez Jacques Prévert qui dit les terrifiants pépins de la réalité. Il est temps de retrouver le réel.
Exactement.
Merci beaucoup, Caroline Galactéros. Je rappelle le think tank Géopragma et je rappelle votre blog Bouger les lignes.
Oui, mais alors si vous voulez bien, André, plus que mon blog que je nourris peu depuis longtemps maintenant, Bouger les lignes, même si j'essaie toujours de les faire bouger, s'il faut mentionner quelque chose, c'est peut-être Paix et Guerre. Mon nouveau petit canal YouTube.
D'accord.
Où j'essaie de pouvoir parler pour l'instant une fois par semaine.
Voilà, il y avait Tolstoï, Guerre et Paix, et il y a Caroline Galactéros, Paix et Guerre. C'est une bonne suite. Merci.
Exactement. Je vous en prie, André. Merci. Au revoir. Au revoir.
C'était le Ça Balance avec Caroline Galactéros. Restez bien avec nous. Tout de suite, les huées et les bravos d'André Bercoff.
Sud Radio Alès.
95.
Sud Radio.
Sleep.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, on va parler comme d'habitude de ces gens qui ont décidé de sauver la planète en vandalisant les œuvres d'art. Voilà. C'est d'un courage extraordinaire. C'est-à-dire que ces gens-là, armés effectivement du sceptre du camp du bien, bien sûr, ils sont de bon côté. Là, ils sont des écolos radicaux. Eh bien, ils ont dit, on va faire des actions symboliques. Donc, ils entrent avec un courage extraordinaire. C'est Jean Moulin avant. Ils entrent dans les galeries, ils entrent dans les musées. Et, eh bien, ils jettent soit de la soupe, soit des couleurs, soit n'importe quoi sur des tableaux. Voilà. Donc, effectivement, ils avertissent évidemment des quelques paparazzi ou quelques journalistes et ça fait le buzz, comme on dit, le buzz. C'est ce mot immonde. Et voilà, c'était à la Galerie des Glaces de Versailles, hein, deux activistes du collectif Riposte Alimentaire. C'est intéressant, Riposte Alimentaire. C'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les œuvres d'art, la Riposte Alimentaire? Voilà, ils s'en sont pris donc à la Galerie des Glaces. Ils ont jeté de la poudre orange dans la Galerie des Glaces. Quel courage, mais vraiment, les résistants en France de 40-44, c'était de la rigolade avec ces rigolos, hein, par rapport à ces rigolos. Alors, ils ont été interpellés, ils ont été libérés, ils seront présentés au tribunal, tout va bien. On leur fera des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qu'on leur demandera de colorier peut-être quelques papiers, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça qui est très beau. La Galerie des Glaces, c'est l'indécence d'une minorité qui s'accapare le pouvoir et l'argent pendant que le peuple crève la faim. 350 ans après, rien n'a changé. Oui, bravo. Effectivement, est-ce que vous allez voir les vrais responsables de ceux qui touchent 800 euros par mois, les vrais responsables qui font que Colombe est bénévole des Restos du Cœur, est au RSA, les vrais responsables de ce qui se passe. Non, non, ça c'est un peu compliqué quand même. On va pas se salir les mains. D'ailleurs, ils ont les mains propres, évidemment, parce qu'ils n'ont pas de mains, bien sûr. Voilà, donc effectivement, et on va donc continuer. Et puis là, eh bien, il y a eu la soupe sur la Joconde, vous savez, en janvier dernier, heureusement qu'il y avait une vitre au Louvre, voilà, ça a été ça. Et puis, alors, dernier exploit, plus récent exploit, magnifique, le tableau L'Origine du Monde de Gustave Courbet, qui était au centre Pompidou-Metz, donc à Lens. Alors voilà, donc là aussi, heureusement, il y avait une vitre, ils ont tagué avec le mot « MeToo » écrit à la peinture sur la vitre. Une broderie a été dérobée par la performeuse Déborah de Robertis, qui a revendiqué le geste. Voilà, le célèbre tableau magnifique qui est au musée d'Orsay en permanence, L'Origine du Monde, ce merveilleux tableau du sexe d'une femme fait par Gustave Courbet. Et ce que je veux dire quand même, parce que ça pose vraiment question, c'est-à-dire que ces mouches vont autour, tourneboules et volatiles au long d'une petite lampe qui s'appelle une œuvre d'art, un chef-d'œuvre d'art, et commencent à jeter leur petite défécation là-dessus. C'est ça la révolution ? C'est ça protéger la planète ? C'est ça lutter contre la misère du monde ? C'est ça alors qu'il y a des gens qui, eux, évidemment, aide les pauvres, aide effectivement les misérables, essaie de se battre. Et c'est ça que vous faites? Alors voilà, ça fait un petit truc, on est content, on visite les musées, on jette sa petite semence grotesque, c'est tout ça. Et franchement, il y a un côté... Alors voilà, on fait des performances, ça s'appelle des performances, effectivement. Voilà, très bien. Et que ce soit des performeuses, que ce soit des militants, vous savez, comme ceux qui mettent les mains dans le... qui bloquent les autoroutes. Encore ça, je peux comprendre. Mais encore une fois, choisir comme terrain de bataille les musées, les musées et le château de Versailles. Mais vous savez, il faut aller plus loin à ce moment-là. Pourquoi vous ne rasez pas le château de Versailles? Pourquoi vous ne déposez pas des bombes au Louvre? Non, non, mais allez plus loin. Ah oui, mais ça poserait des problèmes. Il y aurait des réactions, il y aurait des sanctions un peu plus graves. Alors non, non, on va se contenter de faire nos petits jets comme ça, de faire en effeuillant la marguerite morbide de votre petite résilience. Quelle tristesse, franchement. Quelle tristesse qu'on en soit là au degré zéro. Des neurones, au degré zéro de la comprenette, au degré zéro de la réflexion et surtout au degré zéro de l'ignorance crasse de toute culture.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Ce générique, c'était Apostrophe, bien sûr, Apostrophe, l'émission phare, l'émission culte de Bernard Pivot, qu'il a animé de 1975 à 1990. Et ensuite, effectivement, il a fait Bouillon de Culture, tout à fait, même émission Bouillon de Culture, avec plus qui n'était pas seulement consacré au livre. Et d'ailleurs, en 2001, l'historien Pierre Nora qualifiait le départ de Bernard Pivot de la télévision de deuil national. Effectivement, Pivot, c'était un transmetteur, c'était un passeur, c'était quelqu'un qui vraiment donnait avec quelques personnes, évidemment très brillantes, qu'il recevait, 4 ou 5 invités chaque semaine. Et il y avait c'était en direct, je rappelle. C'était ce monde des livres, c'était les livres du monde, il a reçu, mais tout ce que la littérature internationale compte d'écrivains. Les très grands, Solzhenitsyn, Gabriel Garcia Marquez, Charles Bukowski, le soulard éclairé, le soulard magnifique, le perdant magnifique. Et ça allait de Modiano à tout le monde, les philosophes, les pseudo-philosophes, les nouveaux philosophes, mais aussi bien les essayistes, les pamphlétaires, tous sont passés par celui qu'on appelait le roi Lire, L-I-R-E bien sûr. Et je voudrais vous raconter quelque chose qui, effectivement, qui s'est passé moi aussi. Il a écrit une quarantaine de livres. Je suis passé chez Pivot, mais je suis passé chez Pivot pour quelque chose de très spécifique. Je suis passé deux fois chez Pivot, une fois en 1977 et fin 77 et une fois fin 83 pour des livres que j'avais écrits sous pseudonyme. Le premier, c'était Philippe de Comines. Ça s'appelait Les 180 jours de Mitterrand. C'était une politique fiction. Effectivement, qui racontait, c'était au moment en 78 où on pensait que la gauche allait gagner les législatives. Et donc j'avais composé le ministère de Mitterrand et ce qui passait les six mois de Mitterrand, premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Et je vous dis, allez, petite atteinte à ma traditionnelle et proverbiale modestie, je dois dire que j'avais fait les gouvernements Mitterrand et en 81, la moitié des ministres que j'avais placés, effectivement, étaient exacts, que Mitterrand avait recruté, en tout cas, c'est pas parce qu'il m'a lu, et notamment Jacques Lang, auquel personne ne pensait. En 77, je l'avais nommé ministre de la Culture du gouvernement Mitterrand. Et puis 83, ça a été effectivement l'épisode Caton, où je m'étais fait passer pour un aristocrate giscardien qui regarde passer la gauche au bout de deux ans, en disant « Ne vous inquiétez pas, la gauche va servir le capitalisme aussi bien que la droite, et avec encore plus de zèle. » Et je crois que c'est ce qui s'est un peu passé aussi. Et pendant un an, tout le monde s'était posé la question de savoir qui était Caton. Et en décembre 83, je vais à l'émission de Bernard Pivot, et voici comment il avait présenté l'émission. Écoutez Bernard Pivot, nous sommes en décembre 1983.
Et la chasse au Caton a commencé. Qui était Caton? Tout le monde se le demandait, aussi bien dans les salles de rédaction que dans les dîners en ville. Alors, on a annoncé des tas de gens. Je vous en donne une liste. Il y en avait des dizaines. On a dit que c'était Marie-France Garraud, que c'était Pierre Juillet, que c'était Michel Jobert, Bernard-Henri Lévy, François Giroud, Catherine Ney, Albin Chalandon, ensemble, Olivier Stirne, Georges Suffert, Dominique Jamais, Serge Julie, Jean-Philippe Leca, Alain de Benoît, et même Daniel Cohn-Bendit. Enfin, il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui était certain, ce qui apparaissait certain à tout le monde, c'était soit un homme politique, c'était soit un journaliste politique ou soit un haut fonctionnaire. Ce qui était certain, c'est qu'il connaissait bien le sérail, qu'il connaissait bien l'économie. Et puis, le même Caton a récidivé, il y a quelques semaines, toujours aux éditions Fayard, en publiant un ouvrage intitulé « De la Renaissance ». Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il acceptait de venir à Apostrophe, et c'est pourquoi je vous présente donc Caton. Qui êtes-vous, monsieur Caton?
Je m'appelle André Berkoff, je suis écrivain, journaliste, être vivant.
C'est ça. Mais alors, vous n'êtes ni un homme politique, ni un haut fonctionnaire, ni un journaliste politique.
Je n'ai jamais occupé un siège au Parlement, je n'ai jamais été fonctionnaire dans une administration et je n'ai jamais été économiste.
Voilà, et ça a duré pendant une heure. C'était, je me rappelle, c'était assez croquignolé parce que, effectivement, c'est très intéressant. Vous savez, c'est une expérience quand on parle de vous, parce que ça avait eu un très gros succès et tout le monde parlait de Caton et du livre de La Reconquête. D'ailleurs, comme par hasard, j'avais appelé le premier ministre de La Reconquête. Je ne savais pas qu'il y a un parti politique qu'ils allaient appeler 20 ans, 40 ans après Reconquête. Et mon second livre, c'était De la Renaissance. Je ne savais pas que 40 ans après aussi, un parti politique ça allait s'appeler Renaissance. Voyez. Et puis, tout le monde se posait la question. C'était l'auberge espagnole du fantasme, qui était Caton, et je dois dire que ça a été quand même une des expériences les plus amusantes de ma vie, parce que quand on parle de vous, à table, dans les dîners, en ville ou ailleurs, sans savoir que c'est vous, et on commente, et que vous êtes là, vous dites « Ah oui, oui, ah oui, c'est vrai, j'avais des journalistes qui me disaient, par exemple, c'est évidemment Catherine Ney et Albin Chalandon. » Ah, je dis « Pourquoi ?» Ben, il dit « Catherine Ney, ça commence par 4, Albin Chalandon, ça finit par 11, donc Caton. » Ah ben, je dis « Oui, c'est évident, ça me paraît effectivement frappé au coin du bon sens. » Voilà, on a vécu quelque chose de très étonnant, parce que je racontais comment il fallait attaquer le franc pour que la droite revienne, effectivement. Et alors, ça a été un grand chose, je pourrais vous raconter beaucoup, mais Pierre Mauroy, qui était Premier ministre, avait demandé des policiers des renseignements généraux de savoir qui était ce Caton. On avait vraiment, avec Claude Durand, le PDG de Fayard, gardé très très bien le secret. Et en fait, ils sont allés un peu partout, et puis ils ont remis une note blanche à Pierre Mauroy, on dit « on sait qui c'est Michel Jobert ». Ah bon? Et quand on a téléphoné à Michel Jobert, il n'a pas dit non. Il a pas dit non, il a rien dit. Il a dit je ne peux rien dire. Voilà, c'est ça quand il se passe quelque chose. Et c'était très intéressant parce que c'était le miroir de la France des années 80, où quand il y a eu le grand retournement, le retour au libéralisme après un an de nationalisation, et ben voilà, c'était ce livre-là. Et rendons hommage à Pivot, parce que Pivot était sur la brèche, sur la ligne de fête. Il s'occupait de littérature, il s'occupait des livres qui font effectivement, qui font miroir, qui font effet. Et hommage à Pivot.
Tout de suite, le face-à-face d'André Bercoff avec Christophe et Hoche Duval pour son livre « L'inflation normative » paru chez Plon. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Sud Radio Biarritz.
103.9.
Sud Radio. Dans tous ses états, la rediffusion.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir. J'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là. Pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder. C'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur.
Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.
On se regarde peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.